ici ailleurs, magazine de reportage et de musique plurielle sur Radio PFM 99.9. Salut à tous, c'est le retour de cette émission ici ailleurs sur PFM. Le magazine avait un peu disparu de la surface de notre grille faute de temps. Nouvelle grille, nouveau départ pour ici ailleurs avec toujours cette idée d'échange interculturel. Aujourd'hui, je vous propose une émission consacrée à Haïti. On a rencontré pour vous une personne de la communauté haïtienne de Lille. Cette personne nous parlera de ce pays à l'histoire et à la culture vraiment passionnante. On évoquera aussi la situation actuelle de ce pays. Puis je vous passerai aussi dans cette émission quelques musiques haïtiennes. À noter qu'il s'agit là de l'intégralité d'une interview qu'on avait diffusée en version courte il y a 2 ou 3 semaines, il me semble, à cette antenne. Nico au micro et aux manettes, on est ensemble pour 1 heure. Au 14 septembre dernier, était organisée à Lille la semaine haïtienne. Ça se passait au cinéma L'Univers dans le quartier Moulin avec une série d'événements culturels, expositions, projections de films, rencontres, pour mieux connaître ce pays des Antilles. Une initiative de l'association La Communauté Haïtienne de Lille, dont on a rencontré le vice-président Jean-Michel Romy.
C'est une association qui a été créée en 1987, donc à l'initiative de quelques Haïtiens de Lille qui ont voulu contribuer à leur manière à promouvoir la culture haïtienne dans ses différentes composantes, l'art haïtien, la littérature haïtienne, l'histoire haïtienne. Dans un premier temps, donc, on s'est assigné comme tâche d'aider le pays à travers l'envoi de médicaments, notamment pour aider les dispensaires à continuer à accueillir des personnes en grande difficulté, notamment dans les milieux ruraux. Et après, étant donné qu'on avait des difficultés à avoir une lisibilité par rapport à ces envois-là, donc on s'est maintenant recadré sur des missions, notamment sur le domaine scolaire, c'est-à-dire qu'on prend en charge des personnes, on parraine des enfants. Là, il y a toute une classe qu'on prend en charge qui permet aux enfants, donc moyennant des envois réguliers d'argent via une communauté qui est installée sur l'île, donc qui permettent à des enfants donc d'aller à l'école, de bénéficier aussi d'un minimum de prestations alimentaires, etc. Donc l'association à ce jour s'est enrichie de quelques membres qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Donc on a une dizaine de membres, j'ai envie de dire actifs, donc au niveau du bureau. Et il y a aussi des sympathisants, donc des personnes de tous horizons qui viennent donner des contributions sur des activités ponctuelles comme ici. Voilà.
Qui me rendra mon pays, Haïti. À mon seul paradis, Haïti. Quand je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons.
Dans son ensemble, ceux qui sont à la communauté haïtienne, c'est aussi mon cas. Donc on est venu en France essentiellement pour des raisons scolaires. C'est-à-dire que, par exemple, le président de l'association, donc il a fait un début universitaire en Haïti, il est venu poursuivre ses études, donc c'est aussi mon cas, donc après le bac. Donc étant donné que la situation en Haïti était telle que les étudiants étaient pris pour cible par une junte militaire qui était au pouvoir en 91, à ce moment-là, l'une des possibilités qui s'offrait à nous, enfin aux personnes de ma génération, c'était aussi cette fuite. Et ça, on peut le déplorer parce que c'est l'élite du pays qui est obligée, malgré lui, d'aller ailleurs, vers des cieux plus cléments pour essayer justement de... Il y en a un certain nombre de personnes qui reviennent après en Haïti. J'ai l'exemple de copains qui sont actuellement en Haïti après s'être formé en France, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Mais pour la plupart, au niveau de l'association, on est ici avant tout pour des motifs scolaires, quoi. Donc pour poursuivre les études. Et puis après, on a pris racine ici, notamment dans le Nord. Et puis voilà, mais au départ, c'était une aventure tout à fait universitaire, quoi.
Voilà, justement, comment vous avez atterri dans le Nord ? Parce que beaucoup d'Haïtiens vont plutôt aux États-Unis ou au Canada.
Oui, c'est vrai que traditionnellement, il y a eu deux vagues successives d'immigration dans les années 70, hein, donc avec l'arrivée au pouvoir de Duvalier, donc la dictature auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Donc c'est une dictature qui a duré 29 ans, donc de 1957 à 1986. Et c'est vrai que donc il y a eu une vague d'immigration. Essentiellement vers les États-Unis. Donc c'était une émigration qu'on pouvait qualifier essentiellement de travail. Donc ce sont des Haïtiens, donc bon, qui n'avaient pas forcément un niveau scolaire très très avancé et qui, bon, ben voilà, pour des motifs essentiellement économiques, gagnaient les côtes américaines pour essayer justement de s'en sortir. Et puis après, dans les années 80, donc il y a eu une seconde vague d'émigration vers les pays francophones, dont la France et aussi le Canada. Cette immigration-là, c'était plutôt une immigration, j'ai envie de qualifier, de scolaire avant tout. C'était des étudiants ou alors des professionnels, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, enfin, qui étaient en Haïti et qui étaient visés, là encore, par la dictature des Duvaliers, qui a régné de façon absolument terrible sur le pays, avec les fameux Tonton Macoute, qui était une sorte de milice paramilitaire, donc qui faisait régner une peur permanente sur le pays. Donc à ce moment-là, donc il y a eu cette seconde vague d'émigration où là essentiellement vers les pays francophones, donc le Canada qui a absorbé pas mal de ces émigrants-là et aussi la France.
Alors on va parler maintenant peut-être de la semaine haïtienne que vous organisez donc avec votre association toute cette semaine au cinéma L'Univers à Lille.
Oui, oui.
Alors avant de parler un petit peu, de faire un petit peu le tour de l'expo, il y a aussi des films hein, qui sont proposés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces films ?
Oui, donc il y a un film donc qui est proposé. Donc c'est un film qui part d'un événement actuel. Donc c'est qui met en scène la situation des Haïtiens donc qui vont travailler en République dominicaine. Donc on a une frontière avec la République dominicaine. La République dominicaine a une situation économique un petit peu plus stable, un petit peu plus saine que Haïti, donc qui s'explique pour des raisons historiques, entre autres. Et là, justement, donc, ces Haïtiens-là, donc, ils sont corvéables à merci, ils sont parqués, et le mot n'est pas fort, dans des espèces de baraquements absolument insalubres, etc. Donc, bon. Et ce qui fait que donc, le film, justement, que je n'ai pas encore visionné, donc, j'ai pu lire un petit résumé, donc ça met en scène, justement, donc, un couple de Haïtiens qui aspire à repartir au pays après avoir travaillé pendant un certain nombre de temps dans une posture de quasi-servitude en République dominicaine. Donc, et là, donc, ça raconte globalement les aléas de ce couple, voilà, donc, qui arrive en Haïti et qui se retrouve comme sur une terre étrangère. Et c'est là, justement, donc, ça pose le problème, justement, de l'identité, parce qu'en République dominicaine, ils sont considérés comme apatrides, ils n'ont pas forcément la nationalité haïtienne. Et surtout, leurs enfants n'ont pas la nationalité haïtienne ni la nationalité dominicaine. Donc, ce sont des apatrides qui errent comme ça, donc sur un terrain, sur une terre étrangère. Et quand ils rentrent en Haïti, donc là encore, ils sont confrontés à une espèce de rejet parce que c'est une culture qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas appréhender, notamment dans toute sa subtilité. Donc, c'est un petit peu une situation de double exclusion, en fait. Hein. C'est être étranger dans son propre pays, d'une certaine façon. Donc, c'est le thème un petit peu... Et du film. Donc on avait aussi dans un premier temps prévu de faire une petite rétrospective par rapport aux situations actuelles, donc avec notamment l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, donc qui était un prêtre qui avait incarné un espoir vraiment assez important pour Haïti et qui a profondément déçu à la fois les Haïtiens qui vivent en Haïti et ceux de l'extérieur, ce qu'on appelle la diaspora haïtienne, parce que bon ben il a pas réussi justement donc à tenir ses engagements, notamment par rapport aux inégalités sociale en Haïti qui s'était engagé à réduire. Et là, donc, il s'est laissé aussi corrompre par pas mal de choses. Il n'a pas su résister au chant des sirènes d'une certaine façon. Et puis là, ben, on se retrouve dans une situation actuellement, donc un pays qui a du mal, encore une fois, à sortir de ce marasme Voilà, donc un pays qui patauge. Pourtant, il y a énormément de créativité dans ce pays-là. Il y a une force vive, donc il y a une jeunesse qui est très dynamique, active, mais malheureusement, donc il y a toujours des forces d'inertie qui empêchent ce bond en avant qu'on espère tous et qu'on appelle de nos voeux, quoi.
Mais ça, le monde entier t'attend. Wiglep qui saute dans Fuji. Jérémy, Haïti. Port-au-Prince, Flatbush, ou Fiedes, Conseil haïtien. Marché! Jaspora, on va respecter Jaspora. 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 Depuis moi, petit, moi, t'es quitté Haïti. Gè sa ki al Brooklyn, gè sa ki al Miami. Pou ki sa Jamaïcain, toujours dit c'est Jamaïcain. Mais haïtien a perdu, li c'est haïtien. Pou ki sa ou perdu, non c'est Samuel. Pou ki sa ou perdu ou avec Israël. Pou ki sa chaque soir ou abdomi à Jezabel. Ou perdu, femme haïtien yon que yon belle femme non belle. Mon respecte non kakou, mon respecte Saint Gabriel. Menek jazz pour avle mené non non. Hôtel, tombé par les anglais, viré Playboy Chanel. Yo pas respecté Israël. Jaspora ne pas respecté Jaspora. Si c'est Jaspora, lui et moi, peut brouiller le barricade. Encore Jaspora ne pas respecté Jaspora. Si c'est Jaspora, lui et Aspen, un homme de deux années. Jaspora, ha ha, ou les mains. Papé prend lui, jeter le dans prison. Ma fèl connaît.
Alors avant justement de reparler un petit peu de la situation d'Haïti puis de l'actualité d'Haïti, on va peut-être faire un tour en fait de cette exposition qui est présentée lors de cette semaine haïtienne ici à l'Univers.
Mais écoutez, donc là justement, enfin, c'est la peinture haïtienne. Donc la peinture haïtienne, donc c'est une peinture qui s'exporte bien, donc qui est connue mondialement aux États-Unis, etc. Bon, et donc c'est une peinture, comme vous pouvez le remarquer, enfin, qui retrace la peinture haïtienne n'est pas une peinture d'abstraction. C'est avant tout une peinture qui retrace le quotidien des Haïtiens. Comme par exemple là, c'est une scène, dans un village, donc avec voilà, donc les maisons, donc typiques en toit de chaume. Donc ça, c'est une scène de marché. Donc les marchés en Haïti, et puis là, donc il y a beaucoup de couleurs, hein, donc au niveau des vêtements, donc et là, donc il y a aussi des paysages, donc qui sont assez verdoyants. Bon, c'est avant tout le quotidien. Donc là, c'est encore une scène de marché, hein, donc qui est mise en scène sur cette toile où on voit les femmes, hein, donc ce sont les femmes qui sont les piliers au niveau de ces activités-là. Donc bon, les hommes aussi interviennent, notamment dans les travaux des champs, donc en milieu rural, mais c'est avant tout les femmes qui portent à bout de bras cette économie parallèle. Et c'est aussi une façon de faire face aux besoins quotidiens, c'est-à-dire envoyer un enfant à l'école. Quand, par exemple, un enfant tombe malade, donc c'est la femme qui est vraiment un pilier vraiment incontournable dans l'économie haïtienne. Donc ici, par exemple, donc on va retrouver, donc ça c'est assez typique de Haïti, donc c'est ce qu'on appelle un tap-tap, donc c'est des voitures là encore typiques, donc avec des couleurs, donc c'est vraiment, ce qui est assez prégnant dans la culture haïtienne, c'est ce mélange de couleurs en fait, donc c'est vraiment une peinture qui est avant tout joyeuse, des fois ça raconte des scènes pas forcément joyeuses, donc hein, bon, le quotidien, donc avec des fois une espèce de violence, mais qui est atténuée par cette espèce de couleur. Donc c'est avant tout une peinture d'espoir, donc qui incarne l'espoir avec beaucoup de lumière, donc c'est pas du tout sombre. Enfin, il y a aussi des peintures bon, qui traitent de choses abstraites, etc. Ou par exemple des peintures aussi qui vont mettre en scène des cérémonies vaudou, par exemple, hein, donc avec tous les ingrédients, donc avec tout le cérémonial que cela suppose, mais il y a toujours la couleur, quoi. Donc c'est vraiment une peinture très colorée, très chatoyante et qui vraiment attire le regard.
Oui, alors Haïti, c'est le lieu de naissance, en fait, des rites vaudous, peut-être
Pas exactement, non, pas exactement. En fait, le vaudou haïtien, donc, c'est un héritage culturel, donc c'est aussi l'histoire qui le raconte. En fait, l'origine du vaudou haïtien, c'est le royaume du Dahomey, le Bénin actuel. Voilà, donc le Bénin actuel, donc avec la traite de négrières, donc au 16e, 17e, et aussi, ça s'est poursuivi au 18e siècle, où les Français qui étaient en Haïti à l'époque, donc ont été chercher des esclaves pour remplacer la main-d'œuvre indienne qui était la population autochtone. À la découverte de Haïti en 1492 par Christophe Colomb, donc la population indigène, c'était des Indiens qui venaient essentiellement de l'Amérique du Sud, de Bolivie, etc. Donc cette population-là avait été décimée, notamment au contact des Européens, donc avec des pathologies, etc., vis-à-vis desquelles ils n'étaient pas immunisés. Donc pour remplacer cette main-d'œuvre indienne, servile, donc on a fait venir les Africains d'un peu partout, hein, avec l'île de Gorée, du Sénégal, du Bénin, etc. Donc le Bénin, le vaudou haïtien actuel dans ses composantes, c'est un héritage direct du vaudou béninois, du royaume de Dahomey en fait. Hein.
Est-ce qu'il y a encore une population amérindienne en Haïti ou pas du tout?
La population amérindienne est très peu représenté. Et ce n'est pas la population de souche, parce qu'il y a eu quand même énormément de métissage entre la population noire africaine et la population indigène. Sachant que quand les Noirs ont commencé à arriver en Haïti, la population indigène était déjà en voie d'extinction. Hein. C'est-à-dire que il y a eu les travaux forcés, il y a eu le choc viral, hein, donc des pathologies que les Européens ont amenées, etc. Donc les Indiens n'étaient pas vaccinés, immunisés contre ces pathologies-là. L'hécatombe a été quand même assez importante. Donc actuellement en Haïti, dans le sud-est, du côté de Jacmel, la ville de Jacmel, du côté de la vallée de Jacmel, il y a encore une population qu'on pourrait qualifier autochtone, mais avec quand même cette nuance. Et c'est une population qui est extrêmement métissée.
On continue notre visite de l'exposition de peinture et d'artisanat organisée dans le cadre de la Semaine haïtienne en compagnie de Jean-Michel Romy de l'association La Communauté haïtienne de Lille.
Donc en Haïti, il n'y a pas que la peinture, donc il y a aussi des œuvres, donc ça c'est du fer. Hein, donc c'est du fer, donc il y a la ferronnerie en Haïti, donc c'est du fer, donc qui est découpé, et puis donc on va, et puis il y a une créativité, j'ai envie de dire, presque spontanée. C'est-à-dire que j'ai vu des enfants en Haïti donc qui récupèrent une canette de coca, etc., qui découpent et puis qui tapotent un petit peu et puis qui finissent par créer une petite voiture, un visage. Donc la créativité est assez prégnante en Haïti. Et c'est vrai que la peinture, par exemple, sur les tap-tap, donc les voitures qui transportent les gens, etc., donc là encore, il y a énormément. Donc ce sont de véritables œuvres d'art ambulantes, en fait. Et sur les pans de murs, etc. Donc il y a énormément de... Et c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon aussi d'exprimer une certaine colère. Hein, parce qu'il y a des toiles, des peintures, donc, où on voit justement en filigrane donc une colère qui est exprimée. Donc une colère vis-à-vis des autorités, une colère vis-à-vis de cette misère endémique qui tient littéralement la population dans une espèce d'étau. Et il faut dire aussi en Haïti, donc c'est un pays de contraste, c'est un pays où le luxe des froids le plus débordant côtoie la misère la plus abominable. C'est-à-dire qu'il y a un petit noyau dur, donc c'est une élite qui concentre l'essentiel des richesses. Donc c'est une élite suffisamment aisée pour aller passer leur week-end aux États-Unis, par exemple, où ils ont des résidences secondaires en Floride, etc. Et à côté de ça, donc il y a des personnes qui manquent du nécessaire. Il y a des personnes en Haïti qui n'arrivent pas à faire ne serait-ce qu'un repas par jour et qui sont obligés quotidiennement de trimer, quotidiennement de trouver des stratégies pour s'alimenter. Donc les besoins prioritaires, les besoins vitaux ne sont pas forcément assumés, quoi. Donc, et c'est là que par moment, à travers les œuvres d'art, donc on ressent justement cette colère, on ressent une certaine violence, mais là encore qui est atténuée, heureusement, hein, par les couleurs, par cette joie de vivre, voilà.
fin de la première partie de ce sujet consacré à la semaine haïtienne. Un entretien avec Jean-Michel Romy de l'association La Communauté Haïtienne de Lille. C'était au cinéma L'Univers en septembre dernier. On fait une pause musicale dans cette émission ici ailleurs sur Radio PFM 99.9. Et puis dans 10 minutes, la seconde partie de notre entretien avec Jean-Michel Romy.
Rassemblé pas d'une pas mêlé. Oh, haïtien rassemblé, nous tout concernés. Pour ça pas bon, pour ça pas bien passé. C'est nous tout capouillé.
sa pap jan prone I kote ou ape tombe Dan la vi sa pap jan prone Sa ki rayi ou sa ki reme ou Si on te connaît toujours derrière, si nous pas présent mes confiances, nous je n'en pas pas regret. Dans la vie ça, on pas bien pour Côté ou après tombé Dans la vie sans pape, j'en connais Ça qui raillit ou ça qui remet ou
A nous prier, à nous chanter Pas de malévier ou ça qui fait nous mal
Proverbe l'a dit Si ou te connais toujours derrière Si nous parfaits sans mi confiance Nous jouons pas ta regret
Vous êtes toujours à l'écoute de cette émission ici, ailleurs, sur PFM 99.9. Seconde partie de notre sujet réalisé à l'occasion de la semaine haïtienne à Lille. Seconde partie de notre sujet consacré à la semaine haïtienne organisée à Lille du 11 au 14 septembre dernier. On retrouve Jean-Michel Romy de l'association La Communauté Haïtienne de Lille, avec qui on évoque la situation d'Haïti et puis aussi des questions d'actualité.
Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'à un moment, Haïti était considéré comme l'État le plus pauvre au monde, avec le PIB par habitant le plus pauvre.
Au niveau des classements, enfin du classement mondial, donc Haïti doit être en queue de peloton comparé à certains pays africains, mais je crois qu'au niveau des Caraïbes, donc oui, le pays est, voilà, c'est le pays le plus pauvre, donc au niveau des Caraïbes. Il y a même, j'ai pu lire une fois que Haïti, donc on lui avait accolé cette épithète que j'ai trouvée absolument exagérée, même. Et même offensant pour les Haïtiens, on avait traité Haïti du clochard des Caraïbes. Donc en raison du fait qu'il y a pas mal d'Haïtiens qui essayent de gagner la République dominicaine, les Antilles françaises, la Guyane, Guadeloupe, Martinique. Et par moments, donc, ils ne sont pas du tout bien accueillis. Donc ils sont considérés comme des parasites, donc ils viennent un petit peu. Et c'est vrai que Haïti, oui, on ne peut pas le nier, c'est l'un des pays le plus pauvre au monde.
dit maman, mets yo lasso. Maman chérie, mets yo lasso. Mets dit maman, mets yo lasso. Aïe maman.
Dans la constitution haïtienne, donc, la scolarisation des enfants est obligatoire. Mais dans la réalité, Haïti, bon, je ne connais pas les chiffres tout à fait récents, mais de mémoire, donc, Haïti était à un taux d'analphabétisme qui frôlait les 70%, ce qui est vraiment considérable. C'est pas, quand on parle d'analphabétisme, on ne parle pas d'illettrisme. C'est-à-dire que ce sont des enfants, des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Donc, par ce biais-là, donc on essaye aussi de... bon, c'est vrai que c'est une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'en Haïti, il y a énormément de choses à faire. Haïti, c'est vraiment un polytraumatisé, quoi, si je peux me permettre ce rapprochement-là. C'est-à-dire que tout en Haïti est une priorité au niveau des infrastructures, au niveau de la scolarisation, au niveau de la santé, au niveau de l'insécurité. Enfin, tout, absolument tout. Voilà, donc c'est vraiment une réalité. Donc, nous, on se dit, mais écoutez, on ne va pas se contenter de ça, on ne va pas adopter une posture fataliste en se disant « mais écoutez, c'est comme ça et pas autrement ». On est convaincu qu'on peut changer les choses, même avec une goutte d'eau. Les gouttes d'eau finissent par faire des rivières, voire des océans. Et là, ben, malgré que des fois, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas forcément gratifiant, on ne récolte pas toujours dans l'immédiat ce qu'on sème, mais bon, on continue à y croire, on continue justement donc, à avancer. Et c'est ce qui fait que, bon, ben, on est là, malgré nos activités professionnelles et familiales, donc on dégage du temps pour venir contribuer à notre façon à promouvoir la culture haïtienne et surtout à projeter la caméra sous d'autres angles. Parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas de faire dans l'angélisme. Hein. Il faut reconnaître Haïti, c'est un pays qui a des difficultés. Le constat, il est posé. Ça fait des années qu'on le sait. Mais en même temps, Haïti, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que la misère, ce n'est pas que l'insécurité. Il y a aussi des choses intéressantes, des choses qui valent le coup d'être montrées. Donc nous, on essaie de se dégager de cette présentation, des fois un petit peu misérabiliste, pour dire, mais en Haïti, il y a aussi autre chose. En Haïti, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a le carnaval haïtien. En Haïti, c'est un peuple qui bouge, c'est un peuple qui croit, c'est un peuple qui, et voilà, donc, qui prend plaisir justement à exprimer ses émotions à travers la musique, la danse, etc. Donc c'est un pays où ça bouge, quoi. Hein. Donc à travers tout ça, donc, on essaye de rencontrer les gens et pour justement présenter une autre image de Haïti, quoi.
Di Haïtien kap di machi New York san fizi. Mwen dou mèche nomati. Lè bom yo kebo yo devo, se lè ou mouri polis vini. Mwen dou mèche nomati. Ki Haïtien kap di machi New York san fizi. Mwen dou mèche nomati. Lè bom yo kebo yo devo, se lè ou mouri polis vini. Mwen dou mèche nomati. Padam kape sou flat bouch mwen rayon polis abini. Lizi mwen map van drug, mwen di mwen chè ou mati. Livin pou vin cheke mwen di mwen pa gen ayen. Se nan yon ti bag mwen ta prala pou cheke yon ti zen. Big up phantom mwen mwen ta bon combo. Si sa fè depi nan balan mwen mwen de kote moun yo. Tim bwa sek mwen kouri le movie pot nan yon simiche. Passe mwen mwen yon tèt san kò. ABCDFG sou ble batay se danje. Mèm sou kon jè football denye gol nan se pou pele. A joué maman, maman mse kreyol. Fizim se boussol, kompam se la kol. Original haïtien. Kwa de bouke, gen ne ki pase Brooklyn fet, Haiti fet. Kwa de bouke, kwa de bouke, tande. Ki a yise kap di machi New York san fizi. Mwen dou mèche nomati. Le bom yo kembo yo devo, se lò mou polis vini. Mwen dou mèche nomati. Ki a yise kap di machi New York san fizi. Mwen dou mèche nomati. Le bom yo kembo yo devo, se lò mou polis vini. Mwen dou mèche nomati. Président, mwen pa vle président. Passe microphone, nan mwen se gouvernement. Bonhomme, c'est Wyclef, yo et les enfants.
Ah, ici, je vois une tablette de chocolat en commerce équitable. Oui, et puis, oui, ouais. Il me semble aussi, dans cette semaine haïtienne, vous organisez aussi une rencontre sur le thème comment le tourisme équitable peut être un facteur de développement en Haïti. Donc, il y a aussi des pistes comme ça de développement économique solidaire.
Oui, voilà, absolument. Haïti, enfin, j'ai envie de dire que sur le plan touristique, Haïti, c'est un pays vierge. C'est-à-dire qu'il y a des plages qui restent encore dans leur état naturel. C'est de véritables joyaux parce qu'il n'y a pas encore un afflux massif de touristes, etc. Il y a des endroits pour faire de la plongée sous-marine, etc., où les côtes sont absolument quasiment intacte. Et c'est vrai que de ce côté-là, je pense que c'est un atout extraordinaire. Donc, à Haïti, on a des plages à offrir, on a pas mal de choses, mais ce ne sera pas... et pour que ce ne soit pas un vieux pieu, il faut absolument qu'on commence justement donc, à jeter les premières bases qui vont permettre au tourisme de se développer concrètement, c'est-à-dire les infrastructures, la sécurité. Par exemple, pour aller faire du tourisme en Haïti, si on doit partir la peur au ventre en se disant que bon, ben, je risque de me faire kidnapper, etc., parce que je suis un blanc, je vais vite être repéré comme quelqu'un qui a du pognon, etc. Donc, bon, ben, à moins d'être un petit peu kamikaze sur les bords, donc bon, finalement, ça dissuade. Donc, dans un premier temps, je pense que les autorités haïtiennes, donc sur le plan touristique, donc ils doivent. Concrètement, assurer la sécurité, donc au niveau de ceux qui veulent aller au pays, et aussi les infrastructures. C'est-à-dire que pour se déplacer en Haïti, donc il faut qu'il y ait des routes qui soient dans un état sécurisé. C'est-à-dire que les routes en Haïti, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que bon, ce sont des routes des fois qui ne sont pas révisées, comme là. Donc Haïti est en train, encore une fois, de panser ses plaies par rapport à des tempêtes successives qui ont fait énormément de dégâts sur le plan matériel. Bon, ben, les routes peuvent rester dans un état dégradé pendant des années, sans que, a priori, ça n'offusque ceux qui sont en place au pouvoir. Et en même temps, on ne peut pas non plus leur jeter exclusivement la pierre. Par exemple, actuellement, le président actuel, je pense que c'est quelqu'un qui a la volonté de faire en sorte que les choses évoluent, mais en même temps, c'est un héritage lourd quand même à Haïti. Un pays qui sort de 30 ans de dictature, une dictature, la dictature des Duvaliers, qui était une dictature absolument rétrograde, hein, donc qui était très répressive, notamment à l'égard des intellectuels haïtiens, et tout ça, ben... ça ne se répare pas comme ça, avec un coup de baguette magique. Ça prend du temps, voire même des générations. Mais je pense que là encore, c'est un défi qui est tout à fait atteignable. Hein. C'est pas quelque chose... on n'est pas dans une espèce d'utopie, d'illusion, etc. Donc le tourisme, de mon point de vue, constitue un des atouts majeurs de ce pays-là.
Alors, peut-être un mot, ouais, vous en avez parlé des ouragans qui ont frappé l'île, et notamment plus récemment, c'était l'ouragan Ike. Mmh. Il y a aussi une grave crise qui a connu Haïti cette année, la crise alimentaire qui a frappé particulièrement le pays et qui a provoqué des émeutes de la faim. Peut-être un mot là-dessus ?
Oui, mais écoutez, quand j'étais scolarisé en Haïti, enfin à l'école primaire, donc je me souviens avoir appris que Haïti était un pays essentiellement agricole, soit. C'est vrai que c'est un pays quand même qui a un relief montagneux. D'ailleurs, Haïti, dans la langue des Amérindiens, ça veut dire terre haute, terre de montagne. Mais en même temps, il y a des plaines donc, qui sont absolument fertiles. Mais il y a un fléau qui s'est abattu en Haïti depuis un certain nombre d'années. Et donc, on commence sur le plan écologique, c'est une véritable catastrophe, c'est l'érosion. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en Haïti, donc, le principal combustible pour, par exemple, faire cuire de la nourriture, c'est le bois. Et là, pendant des années, donc, il y a eu comme ça des processus d'abattage complètement anarchiques qui ne sont pas du tout encadrés par les Haïtiens, ce qui fait qu'à un moment donné, bon, quand il pleut, et en plus, donc là, on est situé sur une zone géographique où il pleut énormément, il y a des cyclones, etc. Donc quand il pleut, il y a toute cette terre arable, cette terre fertile, donc qui est drainée vers la mer. Et puis donc là, donc on a des endroits où Haïti est absolument dénudé. Donc là, pour faire pousser du riz, du manioc et autres, donc c'est extrêmement délicat. Et en même temps, en Haïti, donc c'est une agriculture que j'ai envie de qualifier de subsistance. C'est-à-dire que ce n'est pas une agriculture d'exportation. Dans le temps, dans les années 60-70, on exportait du cacao, du café, du coton. Mais maintenant, donc, le pays, bon, au niveau des infrastructures, bon, il reste encore des pays d'exportation, comme par exemple le Rhum. Enfin bon, il y a encore des champs de canne à sucre qui sont maintenus, etc. Mais là encore, c'est des sociétés privées et ce n'est pas encore à une échelle nationale. Et le pays, justement, ne peut pas faire venir suffisamment de devises à partir de ces exportations-là. Donc ça reste quand même, je ne dirais pas anecdotique, mais encore, ce n'est pas suffisant pour équilibrer la balance commerciale du pays. Et par rapport à ça, les émeutes de la faim, oui, ça a été la conséquence, j'ai envie de dire, prévisible de cet état d'incurie, voilà, donc, voilà, depuis très longtemps, justement, donc les autorités haïtiennes n'ont jamais eu comme souci d'investir dans des activités d'irrigation des champs, et le paysan haïtien n'a jamais été aussi soutenu dans ses efforts. Le paysan haïtien utilise des instruments aratoires absolument rudimentaires. Donc on est encore avec une machette, avec une roue, enfin, c'est une agriculture qui n'est pas du tout mécanisé. Et en plus, une agriculture qui a de plus en plus de mal à nourrir ses habitants. À Haïti, on est à 8 millions d'habitants. Et c'est un pays où, là encore, il y a une natalité galopante. Il n'y a pas du tout de mesures de régulation des naissances. Donc, il y a de plus en plus de bouches à nourrir pour de moins en moins de cultures vivrières, etc. Donc là, ben, ça crée, bien évidemment, une situation où, à un moment donné, ben, le peuple, à force de ronger son frein, donc un peuple, justement, qui n'a pas la possibilité d'assumer les besoins primordiaux, donc à un moment donné, ben voilà, donc exprime tout ça par la violence, par des émeutes, hein. Donc il y a même eu des morts, parce que en face, il y a eu les policiers, notamment la force onusienne, la MINUSTAH, la force onusienne, donc qui est chargée de maintenir l'ordre en Haïti, qui aurait, ben, je parle au conditionnel, parce que là, il n'y a pas de certitude là-dessus, qui aurait répliqué en tirant sur la population. Donc là, il y a eu des blessés, il y a eu des morts, enfin. Et aussi, ces émeutes de la faim ont valu au premier ministre de l'époque son poste. Donc il a été finalement limogé suite à la gestion vraiment catastrophique de cette histoire-là. Et là encore, c'est parce qu'ils ont manqué singulièrement d'anticipation dans la gestion de ces phénomènes-là. Et je pense que c'est une crise qui est, parce qu'il faut être réaliste, hein, c'est une crise qui est appelée à se reproduire dans une ampleur encore plus considérable que ce qu'on a pu voir, si toutefois les autorités haïtiennes ne partent pas de ce constat-là pour réagir. Je pense qu'on a les possibilités de réagir. Il y a aussi la communauté internationale, donc, qui est prête justement donc, bon, ben, à assister Haïti dans ces efforts-là. Mais je pense que le premier pas doit venir des Haïtiens. C'est vrai qu'en Haïti, il faut le dire très honnêtement, on a aussi tendance des fois à se réfugier dans une espèce de confort comme ça, donc avec l'idée de l'État-providence, c'est-à-dire que bon, ben, c'est l'État qui doit assumer, qui doit pourvoir à tous les besoins, etc. Mais en Haïti, à un moment donné, donc, il faut sortir un petit peu de cette espèce d'assistanat et prendre aussi les choses en main, se dire, mais écoutez, bon, ben, j'attends de l'État qu'il assume ses responsabilités vis-à-vis des citoyens. Si cet État-là est défaillant pour des raisons diverses dans ses fonctions-là, notamment ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire la justice, la police et tout ça, bon, mais à un moment donné, donc, le citoyen, donc, il doit commencer à mettre la main à la pâte. Mais je ne cautionne pas la violence. Mais en même temps, je peux comprendre qu'une... C'est aussi ce qui s'est passé en France au moment de la Révolution. Donc le peuple français, notamment dans les campagnes, qui était pressé jusqu'à la dernière goutte, etc., par des lois, par iniques, par des prélèvements absolument injustes à un moment donné. Bon, mais voilà, donc ça a provoqué une explosion. Et là, justement, pour ne pas que cette situation-là se réitère dans un avenir relativement proche, il faut absolument qu'on finisse maintenant par mettre la main à la pâte concrètement. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui, donc, au nom de la communauté haïtienne. C'est vrai que ça nous permet encore une fois donc, d'avoir la possibilité d'expliquer un petit peu ce qu'on fait et de promouvoir encore une fois la culture haïtienne. Donc vous êtes toujours les bienvenus, hein, donc, sur ce temps d'exposition. Donc si par exemple là vous avez des questions, etc., donc, on est tout à fait disposés. C'est aussi une joie et, je vous le dis très honnêtement, une fierté pour nous que vous soyez là. Ça nous fait toujours plaisir d'accueillir des personnes qui s'intéressent à minima à Haïti, à la culture de ce pays et aussi au quotidien de ce pays. Vraiment, au nom de la communauté haïtienne, un grand merci.
Un grand merci aussi de notre part à Jean-Michel Romy de l'association La Communauté Haïtienne de Lille, rencontré lors de la semaine haïtienne qui s'est déroulée au cinéma L'Univers à Lille-Moulin en septembre dernier. Le site internet de l'asso, www.communautéhaïtienne-lille.com. C'est la fin de cette émission, ici ailleurs sur Radio PFM 99.9, une émission hebdomadaire diffusée le samedi matin à 9h. Les rediffusions, c'est le lundi à 16h30 et le mercredi à 23h30. A noter que cette émission sera aussi en écoute libre sur le www.radiopfm.com. Vous y retrouverez notamment aussi les références musicales utilisées lors de cette émission. A bientôt et restez à l'écoute.
Now this democracy make us crazy. So we cry, we cry, we complain and cry. So we cry, we complain and cry. Democracy make us crazy. Now this democracy make us crazy.
Democracy day.